religions du monde. Geneviève Delru.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a 7 ans, le 13 mars 2013, le cardinal Bergoglio, archevêque de Buenos Aires, était élu pape et prenait le nom de François en référence à son modèle Saint François d'Assise, le saint des pauvres, de la nature et de la paix. Le quotidien La Croix propose, dans une série de 7 podcasts, de dresser le bilan de ces 7 ans de réforme que le pape François a lancés. C'est Nicolas Senez, correspondant permanent de La Croix au Vatican depuis 4 ans, qui est la voix de ces podcasts illustrés par des archives sonores. L'épisode 1 de ces podcasts, c'est bien sûr l'élection, place Saint-Pierre, et la présentation de la mission que la majorité des cardinaux a confiée à François, qui est le nouveau boss du Vatican.
Et il est rapidement clair qu'au Vatican, il y a désormais un patron qui va mettre en œuvre la réforme que les cardinaux du monde entier ont demandé dans les rencontres précédant le conclave. Au-delà de la réforme de la manière d'être pape, ce pontificat va être celui de profondes réformes dans l'Église. Quitte à provoquer l'opposition, tant à l'intérieur de la curie que chez certains évêques, et même chez une partie des fidèles. Conscient de ces oppositions, mais certain que la réforme est le seul moyen de restaurer la crédibilité de l'Église, François s'attaque immédiatement au chantier de la curie, et en premier lieu, à la réforme la plus urgente, tant les scandales ont été nombreux ces dernières années, celle des finances vaticanes.
Avec nous en ligne de Rome, Nicolas Senez. Nicolas, bonjour.
Bonjour.
Nous aurions aimé vous avoir en studio à Paris, mais coronavirus oblige. Vous êtes en situation de confinement à Rome, n'est-ce pas ?
Oui, exactement, à la maison et en essayant de travailler, d'informer au mieux sur ce qui se passe au Vatican.
Alors, quelques mots de présentation générale sur ces podcasts. Dans l'ordre, on peut dire qu'il y a la méthode François, sa nouvelle façon de gouverner. On rencontre ensuite l'assainissement des finances, puis la réforme du Vatican, les grands dossiers contemporains comme les migrants, l'écologie et puis bien sûr la question des abus sexuels dans l'Église. Et vous avez choisi finalement dans le haut de la liste de positionner l'assainissement des finances du Vatican. Pourquoi ?
Parce que c'était la réforme la plus urgente d'abord. C'était celle qui avait empoisonné la fin du pontificat de Benoît XVI. Celle qui avait entraîné, pas entraîné sa démission, mais qui avait finalement, avec l'affaire des Vatilix, ces documents qui étaient sortis dans la presse directement depuis le bureau du pape, ça avait révélé tous les dysfonctionnements de la curie romaine. Et c'était pour François la première des réformes, on peut dire presque la mère de toutes les réformes, parce qu'à partir de cette réforme des finances vaticanes, se déroulent finalement toutes les autres réformes que François a mises en œuvre dans l'Église.
C'est ça, après on peut tirer la plotte. Eh bien, on va écouter précisément ce podcast sur l'assainissement des réformes du Vatican.
Au cœur des affaires, et parfois, reconnaissons-le, des fantasmes, on trouve souvent l'IOR, l'Institut pour les œuvres de religion, surnommé la Banque du Vatican. Une banque relativement petite, 3 milliards d'euros d'actifs, très loin des grandes banques françaises avec leurs plus de 1 000 milliards d'euros. Mais c'est amplement suffisant pour aiguiser les appétits et multiplier les scandales. Car implanté sur le territoire de l'État de la Cité du Vatican, l'IOR a longtemps été, de fait, une sorte de banque offshore installée dans un paradis fiscal. Il suffisait de connaître un cardinal, ou son cousin, ou un ami, pour ouvrir un compte dont vous pouviez être sûr que le fisc de votre pays n'entendrait jamais parler. Ajouter un contrôle des plus lâches, c'est alors une porte ouverte pour toutes les mafias et une vitrine qui va vite devenir gênante pour l'Église catholique dès lors qu'elle veut parler de moraliser l'économie.
Alors Nicolas, après les finances du Vatican, vous avez choisi la remise au pas de la curie en rappelant ce fameux jour, le 22 décembre 2014. Quelques mots, vous y étiez ou pas
Non, je n'étais pas encore arrivé à Rome à ce moment-là, mais j'avais suivi effectivement à l'époque depuis Paris. Voilà, c'était important parce qu'effectivement, on vient de parler de la réforme des finances et on voit qu'elle révèle en fait des manières de faire, des manières de fonctionner dans la curie qui, par-delà la question financière, il fallait réformer effectivement toutes ces manières de faire, ces manières de penser, d'être. Et c'est ça que François veut changer, effectivement.
Et aussi tout un état d'esprit dans la curie.
Un entre-soi, une façon de regarder finalement l'Église et le monde un peu en surplomb, dans une espèce de vase clos, complètement coupé finalement des réalités.
Oui, ce décalage qu'avaient souligné les cardinaux lors des grandes rencontres qui ont précédé le conclave.
Oui, c'est ça, c'était toutes ces réformes, hein, elles viennent pas, c'est pas une lubie de François telle que la présentent souvent ses opposants. Hein, ça vient d'une profonde prise de conscience des cardinaux au moment du conclave. Et au moment du conclave, d'une certaine façon, ils ont un peu renversé la table en disant toutes ces combinaisons de la curie, toutes ces manières de faire en vase clos, ça suffit, c'est en train de décrédibiliser l'Église, il faut que ça change, il faut des réformes. Et c'est un peu le programme qu'ils ont imposé au nouveau pape.
Alors, on revient sur cette fameuse journée du 22 décembre 2014.
Ce matin du 22 décembre 2014, la stupeur se lit sur les visages des cardinaux et évêques assis sous les fresques et les marbres de la magnifique salle Clémentine au cœur du Vatican. Car en cette fin d'année, pour son traditionnel discours de vœux à la curie romaine, le pape propose un véritable examen de conscience à ses collaborateurs. Et François n'y va pas par quatre chemins, détaillant longuement 15 maladies spirituelles qui affaiblissent notre service du Seigneur, explique-t-il. Et il attaque d'emblée.
Cominciamo con la malattia del sentirsi immortale.
La maladie de se sentir immortel, à l'abri et même indispensable, outrepassant les contrôles nécessaires ou habituels, et aussi de ceux qui se transforment en patrons et se sentent supérieurs à tous et non au service de tous. La maladie de la pétrification mentale et spirituelle, de ceux qui ont un cœur de pierre et une nuque raide, de ceux qui, chemin faisant, perdent la sérénité intérieure, la vitalité et l'audace, et qui se cachent sous les papiers, devenant des machines à dossier et non plus des hommes de Dieu.
Au fur et à mesure que le pape parle, les cardinaux semblent comme tassés dans leur siège. Certains rient jaune, baissent un peu nerveusement les yeux ou tentent de faire bonne figure.
Alors Nicolas, bien sûr, on ne peut pas citer toute cette feuille de maladie, notamment celle de l'Alzheimer spirituel qui avait le plus marqué. On ne peut pas citer toutes ces maladies, mais effectivement, ça restera une journée historique. Alors, parmi les grands dossiers contemporains, très rapidement, le pape va prendre en main celui des migrants en allant à Lampedusa quelques mois après son élection.
Oui, ça c'est un des grands sujets du pape François. Que moi, j'ai voulu justement replacer dans une vision plus large. Pour François, la question des migrants, c'est un sujet pro-vie. Hein, François est aussi, parfois, par ses opposants, accusé de délaisser ces questions de la fin de vie, ces questions de l'avortement, ce qui n'est pas vrai du tout. Hein. Il y vient fréquemment avec une vision qu'on pourrait qualifier de conservatrice, mais il replace tout ça dans une vision très large de la dignité de l'homme. D'une certaine façon, voilà, il y a le début de la vie, la fin de la vie, et puis il y a tout ce qu'il y a au milieu, et qui doit rester digne, et donc ces questions de migrants, de travail, sont très importantes.
En tout cas, Nicolas Senez, à Lampedusa, c'est la conscience internationale, hein, c'est la conscience que le pape est venu interpeller face à cette Méditerranée devenue un cimetière.
Oui, c'est la conscience internationale, c'est la conscience des responsables d'État, mais d'abord la conscience de tout le monde. Hein, ce qu'il constate à Lampedusa, c'est finalement, personne ne se sent responsable, et en disant ça, il leur dit, mais ça signifie que tout le monde est responsable. Et donc, c'est les comportements de chacun et chacune qu'il souhaite interpeller pour relever que voilà, chacun et chacune, par les décisions qu'il prend dans sa vie quotidienne, contribue à ce drame mondial.
On écoute cet épisode 5 hein, des podcasts de La Croix.
Le 8 juillet 2013, pour son premier voyage hors de Rome, François a choisi une destination inattendue. La petite île italienne de Lampedusa, au large de la Sicile, à moins de 150 km des côtes africaines. Dans sa chasuble violette, le pape a l'air grave. Avec son bâton pastoral, fabriqué avec les restes d'une embarcation naufragée, il interroge le monde.
Qui est le responsable du sang de ses frères et sœurs? Aujourd'hui, personne dans le monde ne se sent responsable de cela. Nous avons perdu le sens de la responsabilité fraternelle. La culture du bien-être, qui nous amène à penser à nous-mêmes, nous rend insensibles aux cris des autres, nous fait vivre dans des bulles de savon, qui sont belles, mais ne sont rien. Elles sont l'illusion du futile, du provisoire, qui porte à l'indifférence envers les autres, et même à la mondialisation de l'indifférence.
Alors, Nicolas Senez, l'autre grand dossier, ou les deux autres grands dossiers que vous avez voulu mettre en exergue hein, dans ces sept travaux du pape François, c'est bien sûr l'écologie. Alors là, on se souvient de la publication de Laudato Si, qui est une encyclique sur la préservation de la planète, qui restera. Le pape qui avait d'ailleurs été marqué hein, par son voyage en Amérique latine, notamment au Pérou. C'est un des thèmes de votre podcast. On n'a pas le temps là de l'écouter en détail. Mais voilà, vous relevez que le pape avait été marqué à ce moment-là par les désastres écologiques en survolant le pays.
Oui, tout à fait. Et encore une fois, on parlait des décisions personnelles concernant les conséquences sur les migrants. Là encore, il rappelle les conséquences des décisions que chacun peut prendre par rapport à son style de vie et qui abîment l'environnement. Donc, c'est à la fois une encyclique sur la préservation de l'environnement, mais il le dit souvent aussi, c'est une encyclique sociale avant tout.
Le septième podcast, Nicolas Senez, bien sûr, ce sont les abus sexuels. On peut dire que c'est ce qui aura marqué le pontificat de François, la lutte contre les abus sexuels.
Ah oui, sans aucun doute. Hein, c'est un des sujets qui existait déjà très fortement. Hein,
sous Benoît XVI, bien sûr.
Benoît XVI, c'est Benoît XVI qui a été le premier à lutter très fortement contre ces abus sexuels. Je pense que François, lui, s'est rendu compte qu'il fallait aller encore plus loin et que justement la réforme qu'il entraînait, dans laquelle il voulait entraîner l'Église était importante en ce sens qu'elle nécessitait justement pour lutter contre les abus sexuels de revoir complètement les relations de pouvoir dans l'Église. Et c'est ça qui est important, je crois, dans la vision qu'a François de la lutte contre les abus sexuels. C'est pas simplement punir les coupables, mais plus largement réformer l'Église pour changer sa culture et faire en sorte que ce qu'il appelle la culture de l'abus et de sa dissimulation disparaisse de l'Église.
Cela dit, Nicolas, le pape quand même a mis un certain temps à accepter certaines situations, comme la situation au Chili, où bon nombre de fidèles et de laïcs étaient très remontés contre l'Église, contre le Vatican, qui ne reconnaissaient pas les abus sexuels, notamment de Caradima, hein, un prêtre qui s'occupait d'enfants, et de Juan Barros, qui est un évêque que le pape, malgré tout, soutenait. Donc François a quand même mis du temps à réagir à certains dossiers.
Oui, tout à fait. Le voyage au Chili est très caractéristique parce que ça a été, je pense, une prise de conscience, justement, pour François, où il s'est rendu compte, avec l'affaire chilienne, d'une part qu'on lui mentait sur la situation dans certains pays, et que c'est le fonctionnement même de l'Église qui avait un véritable système où régnait une culture de l'abus, une culture de la dissimulation des abus, jusqu'à mentir au pape, et que c'est à ce système-là qu'il veut s'attaquer aujourd'hui dans l'Église.
Alors, on revient sur ce voyage au Chili.
Un homme en particulier est au centre de l'attention, Juan Barros. L'évêque d'Osorno, au sud du pays, accusé d'avoir couvert Fernando Caradima, un ancien curé d'un quartier huppé de Santiago, à l'origine de nombreuses vocations, mais qui s'est révélé un redoutable prédateur sexuel. Ce matin, il doit même y concélébrer la messe avec le pape. Aussi, à peine arrivé sur place, François est interrogé par une télévision chilienne. Sa réponse est lapidaire.
Le jour où vous m'apporterez une preuve contre Monseigneur Barros, alors je parlerai. Il n'y a pas de preuve contre lui. Tout cela, c'est de la calomnie.
Ces mots provoquent immédiatement la polémique. Principal conseiller du pape sur les questions de pédocriminalité, le cardinal Sean O'Malley, archevêque de Boston, reconnaît vite qu'il est compréhensible, qu'il provoque une grande peine chez les victimes. Il juge que des paroles qui envoient le message « Si vous ne pouvez pas prouver vos accusations, alors on ne vous croira pas », abandonne ceux qui ont souffert de violations criminelles contraires à leur dignité humaine et relègue les victimes dans le discrédit. François comprend vite sa faute et dans l'avion qui le ramène vers Rome quelques jours plus tard, présente des excuses inédites pour un pape.
Je dois demander pardon parce que le terme preuve a blessé de nombreuses victimes d'abus.
Nicolas Senez, il y a un an, donc, se tenait à Rome, c'était en février 2019, le sommet sur les abus sexuels, qui a rassemblé des évêques et des cardinaux. Est-ce que l'on peut dire que c'était une forme de réparation, en quelque sorte, de la part du pape François ?
C'était une façon pour lui d'aller plus loin encore, c'est-à-dire que pour ce changement qu'il veut impulser dans l'Église, il faut que ce soit un changement culturel, quelque chose qui ne peut pas être imposé d'en haut. Et donc, c'était une manière pour lui d'impliquer tous les évêques du monde entier pour qu'eux aussi changent leur façon de voir, leur façon de faire, leur façon d'appréhender cette question-là pour changer le système finalement.
Alors, pour conclure, Nicolas Senez, sur ces podcasts à retrouver sur le site de La Croix et sur diverses plateformes, pour conclure, est-ce que l'on peut dire qu'un certain nombre de réformes ont abouti ou bien au contraire que, bon voilà, il y a beaucoup de réformes qu'il entame et qu'il ne verra pas, dont il ne verra pas la fin ?
Ah, il sait qu'il ne verra pas la fin de ses réformes, il sait qu'il lance un processus qui est long, on parlait de révolution culturelle, enfin c'est quelque chose qui se jouera sur plusieurs générations, donc il sait qu'il ne verra pas le bout. Il s'attache simplement à ce que ce processus devienne irréversible.
Je vous remercie, Nicolas Senez. Je rappelle donc que vous êtes le correspondant de RFI au Vatican et que vous êtes la voix de ces 7 podcasts. Merci.
Merci à vous et merci à toute l'équipe aussi de La Croix avec qui j'ai réalisé ça, parce que derrière, c'est beaucoup de monde.
En ligne de Rome, coronavirus oblige, le vaticaniste Marco Politti, qui devait venir à Paris, présenter son dernier livre sur François, le titre « La solitude de François » aux éditions Philippe Ray. Marco Politti, bonjour.
Bonjour.
Alors, ce livre, on peut le dire, s'inscrit dans la suite du précédent qui s'intitulait « François, un pape parmi les loups » et c'était en 2015. Depuis 5 années se sont écoulées et aujourd'hui, vous constatez un pape de plus en plus seul.
Oui, absolument, parce que dans les dernières 5 années, il y a eu une escalation d'agressivité contre ce pape. La partie conservatrice et la partie traditionnaliste de l'Église est devenue de plus en plus agressive. Et il y a eu des pétitions, il y a eu des cardinaux qui ont mis en doute l'autorité du pape. Il y a eu un nonce qui a demandé au pape de démissionner. Il y a eu des importants cardinaux de la Curie qui ont dit que l'Église est déchirée, l'Église est dans un état de confusion. Il y a eu quand même le pape démissionnaire Ratzinger qui, avec le cardinal Sarra, a écrit un livre pour bloquer la décision possible du pape pour l'ordination des hommes mariés. Alors, dans cette situation, je me rappelle de ce que m'a dit le cardinal Echegaray, une grande personnalité de l'Église post-conciliaire, qui me disait au commencement, pour le pape François, ce sera une lune de miel, mais un jour, il se trouvera au pied de mur.
Oui, effectivement, la lune de miel aura été de courte durée. Et alors, ce qui est tout à fait intéressant dans votre livre, Marco Politti, La solitude de François, c'est l'Italie. Effectivement, on parle peu de François en Italie, mais sa cote de popularité a très nettement baissé du fait de son discours sur l'accueil des migrants.
Oui, absolument, parce que dans l'Europe, il y a maintenant, aujourd'hui, des mouvements xénophobes, souverainistes, identitaires, qui sont absolument à l'opposé de la vision du pape. On l'a vu en Hongrie, on l'a vu en Pologne, où on a fait un jour national, il y a quelques ans, un jour national de prière pour les rosaires, pour bloquer l'invasion des athées, l'invasion des musulmans. Et en Italie, les mouvements xénophobes et identitaires et souverainistes représentés par les partis La Lega avec M. Matteo Salvini, qui est le chef de ces partis, a devenu vraiment un parti en contraposition, en conflit permanent idéologique avec le pape. C'est la première fois dans l'histoire d'Italie qu'il y a un chef d'un parti, et Salvini, il y a un an, était aussi ministre de l'Intérieur, il était vice-président du Conseil, qui s'est mis à l'opposition du pape. Il y a des fois que Matteo Salvini va à des réunions avec une t-shirt où est écrit « J'aime Benoît ».
Mon pape, c'est Benoît, c'est ça.
Mon pape est Benoît, c'est le pape juste. Et il y a des évêques, il y a des clergés qui sont d'accord avec moi. Et on peut voir que la popularité de pape François est baissée, parce qu'au commencement du pontificat, il avait 87% de consensus. Il y a deux ans, c'était baissé à 72. Et aujourd'hui, c'est à 66. Et effectivement, la Lega et le centre droit xénophobe, maintenant, ont 30-35% de consensus.
De même, aux États-Unis, 52% des catholiques ont voté pour Trump. Et il semblerait que, bon, les catholiques américains n'aiment pas tous, loin de là, le pape François.
Oui, c'est peut-être que la situation va changer maintenant avec les prochaines élections présidentielles, mais c'est vrai que toute la partie des catholiques américains, surtout les clergés et les évêques qui sont habitués à une sorte de lutte culturelle contre la société moderne, la question de l'avortement, la question de la communion aux divorcés et remariés, et la partie plus conservatrice et traditionnelle de l'Église américaine est contre pape François. Et en même temps, tous les mouvements protestants fondamentalistes de l'Église évangélicale sont les noyaux durs qui ont appuyé Trump. Alors on voit qu'il y a une opposition au pape, pas seulement à l'intérieur de l'Église catholique, mais aussi à l'extérieur. Parce qu'il y a tous les mouvements qui sont xénophobes, sont contre le pape. Il y a des lobbies économiques qui sont contre le pape parce qu'ils parlent des inégalités, parce qu'ils parlent des nouvelles esclavitudes, parce qu'ils parlent d'une économie prédatoire. Et il y a des lobbies de pétrole qui sont contre le pape quand ils parlent de la question de la défense de l'environnement, parce qu'il dit que les désastres qui sont créés dans l'environnement deviennent des désastres sociaux.
Alors, ce que vous décrivez également dans votre livre, Marco Politi, c'est que entre l'élection du pape François et aujourd'hui, 7 années se sont écoulées et que le monde a beaucoup changé pendant ces 7 années.
Oui, le monde a beaucoup changé. Le pape est plus isolé, comme j'ai dit, sur le plan international. Et surtout, les relations avec les États-Unis sont dramatiquement changées, parce que les États-Unis sont été, après la guerre, toujours un point de référence pour le Saint-Siège. Il était allié avec Jean-Paul II pour défendre Solidarność en Pologne. Mais il était aussi un point de référence quand Jean-Paul II était contre l'invasion de l'Irak faite par Bush et par Blair. Aujourd'hui, pratiquement, il n'y a pas de relations. Il y a seulement des formalités diplomatiques parce que Trump suit une ligne qui est tout à fait l'opposé de la ligne de pape François. Trump est contre un pacte à l'ONU pour reconnaître les droits des migrants. Trump s'est retiré du pacte de l'accord sur climat. Trump s'est retiré de l'accord nucléaire avec l'Iran. Trump ne veulent pas une solution deux peuples, deux États dans les Moyen-Orient, mais va à encourager une expansion totale de l'État d'Israël fait par le premier Netanyahu ou quelqu'un d'autre. Alors on voit que sur le plan international, la situation est devenue très difficile pour le pape François. Mais en même temps, il a un grand consensus, pas seulement au niveau des catholiques ou des chrétiens, mais aussi parmi les juifs, musulmans, et des agnostiques et des athées, parce qu'ils touchent les grands problèmes de la société contemporaine, c'est le problème de la inégalité sociale, c'est le problème d'un capitalisme prédatoire, c'est le problème de la défense de l'environnement et c'est le problème de migration. Dans ce sens, il est un prophète sur la scène internationale.
Je vous remercie, Marco Politi. Donc, je rappelle le titre de votre livre, « La solitude de François », et c'est publié aux éditions Philippe Ray. Merci. Le 29 février dernier, le président turc Erdogan, dont l'armée se trouve en difficulté dans le conflit syrien, annonçait haut et fort l'ouverture de la frontière avec la Grèce, provoquant de nouveaux départs de migrants devenus plus que jamais monnaie d'échange dans le bras de fer qu'il entend imposer à l'Europe. Autre événement, deux jours plus tard, à Lesbos, île grecque de la mer Égée, où survivent 30 000 réfugiés, c'était donc le lundi 2 mars, une partie des habitants de l'île, dans un vent de colère, s'en est prise aux ONG et aux personnes qui travaillent sur place pour l'accueil des réfugiés. Épisode douloureux qui illustre les tensions dans les pays d'arrivée qui réclament plus de solidarité de la part des pays européens. Sur cette question migratoire brûlante, avec nous dans ce studio, Véronique Albanel, présidente de JRS France, le service jésuite des réfugiés. Bonjour Véronique Albanel.
Bonjour.
Vous êtes docteur en philosophie, ancienne élève de l'ENA, vous enseignez à Sciences Po, les liens entre la religion et la politique. Vous enseignez également la philosophie au Centre Sèvres et vous avez publié en 2018 aux éditions de l'Atelier « La fraternité bafouée, sortir de la peur du grand remplacement ». Véronique Albanel, déjà, ce qui s'est passé en Grèce, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tant que présidente France du JRS, le service jésuite des réfugiés ?
D'abord, merci de me laisser parler d'un autre sujet que celui qui nous occupe, d'un autre virus que celui qui occupe nos esprits et nos médias. Un virus qui est le virus de la haine, un virus de la violence qui se propage et qui gagne l'Europe, malheureusement, en tout cas, qui gagne la Grèce. Alors, c'est très...
Virus de la peur aussi.
Virus de la peur, oui, tout à fait. Mais je pense qu'on est passé, avec ce qui arrive en Grèce, un cran au-dessus. C'est vraiment une haine. Une haine, une violence en tout cas, destructrice. Alors comment en est-on arrivé là ? Je voudrais surtout me garder des positions accusatrices ou moralisatrices, c'est-à-dire en fait de toute posture simple, parce que je crois que la situation est très complexe et qu'il n'y a pas à l'heure actuelle, de solutions simples envisagées. Je vais évidemment en faire des propositions, mais parce que nous avons la chance d'avoir deux jésuites sur place, à Lesbos en particulier, envoyés par JRS International, et que nous suivons de très très près ce qui s'y passe. Les liens entre JRS France et JRS Grèce sont anciens, parce que la Grèce fait partie aussi de la province européenne, enfin en tout cas francophone. Et donc nous sommes informés notamment par un jésuite français qui fait partie de ces deux jésuites, Maurice Joyeux, qui se trouve sur place et qui nous donne des nouvelles quotidiennes de ce qui s'y passe, notamment dans le camp de Moria. Alors, nous, bien sûr, nous sommes effarés, effrayés de cette tragédie, parce qu'il faut d'abord dire, avant toute chose, que c'est une tragédie humanitaire. Mais quand je dis ça, j'ai l'impression d'utiliser des mots usés, parce que je relisais ce que le pape disait lors de sa visite à Lesbos, au camp de Moria, donc en avril 2016, ça avait déjà quand même 4 ans, et il parlait déjà de crise humanitaire, il faisait déjà cet appel, il y était avec le patriarche Bartholomé, et puis l'évêque d'Athènes, Monseigneur Hieronymos, qui utilisait un très beau mot, je trouve, « banqueroute de l'humanité ». Alors, c'était il y a 4 ans. Aujourd'hui, c'est toujours une banqueroute annoncée. Enfin, je veux dire, tous les ingrédients étaient là pour prédire ce qui allait se passer. Je rappelle vraiment, je n'aime pas beaucoup les chiffres, mais je rappelle simplement. Le camp de Moria, sur les principaux camps de Lesbos, il y en a deux.
C'est 30 000 personnes, c'est combien ?
Alors, était prévu pour 3000 personnes au départ, même moins. Il est passé à 9000 assez rapidement. Aujourd'hui, il y a plus de 20 000. Maurice Joyeux nous disait 23 000 environ. Les conditions dans ce camp, mais ne parlons plus de camp, très vite d'ailleurs le HCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés, qui est la cible d'attaque de la part de la population grecque, parlait de centres de détention. Donc c'est des camps livrés à eux-mêmes, les ONG s'en sont retirés pour des raisons de sécurité, tout à fait compréhensibles, et en même temps essayent d'apporter une aide, et vous le disiez vous-même, il y a une ONG qui a vu ses locaux incendiés alors qu'elle distribuait des repas. Donc aujourd'hui, l'armée dépose les repas à la porte du camp, et c'est la loi de la jungle, c'est-à-dire la loi du plus fort. Donc non seulement les conditions sanitaires, il y a des suicides, il y a des enfants, enfin, non seulement tout ça est effrayant, c'est pire qu'un bidonville, parce qu'un bidonville, on peut encore peut-être en
s'organiser presque. Oui.
Et puis oui, ça finit par être organisé, mais là, c'est livré à une violence extrême. Alors pour en revenir à votre question, comment on est arrivé à cette folie que nous avons préparée, que nous avons laissé faire, parce qu'on a laissé pourrir. En fait, tout ça, c'est aussi le résultat d'une politique migratoire absurde. Et encore une fois, je vais résister à la tentation de dire l'Europe n'est pas à la hauteur, parce que l'Europe fait ce qu'elle peut, puis elle est aussi ce que les opinions publiques lui permettent d'être. Nous sommes, nous, citoyens européens, responsables de cette Europe. Voilà, gagnée par les populistes, gagnée par les extrêmes. Alors juste pour résumer rapidement ce qui s'y passe, c'est qu'en réalité, bien sûr, le chantage du président turc, il faudrait rappeler aussi que lui-même est embourbé dans cette question d'Idlib et de la Syrie. Donc là aussi, n'allons pas trop vite dans les accusations.
Et qu'il y a aussi, en Turquie, 3,5 millions.
Exactement, la Turquie a permis, en tout cas, 3,5 millions de réfugiés, alors dans des conditions pas simples, mais au moins ils ont un lieu où ils peuvent rester. Donc cette annonce et ce chantage du président Erdogan a évidemment déclenché des peurs, mais c'est aussi l'annonce d'un deuxième camp envisagé par l'Europe sur l'île de Lesbos. Je rappelle que Lesbos, c'est 90 000 habitants. Alors vous voyez, il y a entre 30 et 40 000 migrants, enfin réfugiés, dans ces camps. Dans l'ensemble de l'île de Lesbos, c'est intenable, c'est absolument intenable. En tout cas, à terme, c'est intenable. Et donc, évidemment, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qui est extrêmement préoccupant? C'est que non seulement l'armée, évidemment, ferme les frontières avec l'encouragement de l'Europe, mais les milices viennent en renfort de cette armée. Donc, c'est une loi où les populations elles-mêmes règlent leurs comptes avec un bouc émissaire qui est tout migrant qui franchit la frontière ou tout migrant qui arrive en canot pneumatique à Lesbos. Donc très honnêtement, on a créé une condition explosive de violence destructrice et qui peut se terminer en forme de guerre civile. Mais là encore, ne distribuons pas les bons et les mauvais points parce que nous sommes tous embarqués dans cette situation.
Et alors vous, en tant que présidente précisément du JRS France, qu'est-ce que vous préconisez?
Alors écoutez, ce que préconise déjà JRS International, et je me fais le relais de ce qu'ils préconisent, parce qu'ils sont sur place et ils sont témoins de cette situation dramatique, c'est déjà de répondre à une crise humanitaire. Je crois que nous oublions trop souvent, au-delà des statistiques, qu'il y a des personnes, il y a des enfants, il y a des femmes. Alors j'entendais que l'Europe se concertait, enfin certains pays européens, pour accueillir 1500 mineurs. Bon, c'est déjà un pas, il faut le saluer. Tout pas est déjà à saluer. Ça ne règle à mon avis pas quand même le problème du camp de Moria, et sur lequel il faut se pencher. Alors, la solution préconisée, ça serait un couloir humanitaire pour permettre à ces personnes au moins de s'installer ailleurs ou en tout cas de détendre cette pression.
Alors, le ailleurs où? C'est ça.
Le ailleurs question. Où? On est bien d'accord. Mais c'est pour ça que la solution ne peut venir. La solution de couloir humanitaire ne peut venir que si l'Europe s'accorde, que si l'Europe a une parole forte et défend ses valeurs et ses principes. Parce qu'il y avait une tribune dans Le Monde il n'y a pas longtemps d'intellectuels, et je salue cette tribune, c'est magnifique, disant qu'on a les outils juridiques pour accorder une protection, pour traiter du droit d'asile en urgence, et une protection au moins temporaire. La question, c'est que les conditions ne sont pas là. Nous sommes empêtrés dans des problèmes internes et puis des égoïsmes nationaux qui nous interdisent, à mon avis, d'espérer une situation de règlement d'une question humanitaire tragique. Moi, je pose quand même une question, parce que tout ça ne semble pas beaucoup bouleverser les Français. Mais je dis, de même qu'on a délégué, externalisé, comme on dit, hein, toute la question migratoire à d'autres pays, la Turquie.
La Turquie, oui, l'Italie.
Bon, on a délégué ça en se disant, on ne le voit pas, on ne veut pas savoir. Cette violence dont je parle et que je dénonce, mais écoutez, ne rêvons pas. Nous ne pouvons pas bâtir la paix si nous oublions les principes sur lesquels sont fondées la paix en France et en Europe, c'est-à-dire le respect des personnes humaines. Or, à partir du moment où ces personnes humaines ne sont pas respectées, et c'est vraiment le cas là-bas, pourquoi est-ce que nous, tôt ou tard, nous ne basculerons pas dans cette folie destructrice ?
Vous écoutez Religion du Monde, notre invitée est Véronique Albanel, auteure de La Fraternité Bafouée, publiée aux éditions de l'Atelier. Alors, est-ce que cela veut dire, Véronique Albanel, qu'un migrant a vocation à être systématiquement accueilli ?
Écoutez, moi, en tout cas à GRS, nous évitons des postures idéologiques ou trop militantes, binaires, voilà. Et nous pensons qu'il faut partir du réel, toujours être connecté au réel. Aujourd'hui, nous ne défendons pas cette position d'un accueil inconditionnel et nous restons sur nos fondamentaux qui sont défendre le droit d'asile. Vous voyez, parce que, et encore une fois, c'est très compliqué. Moi, je salue toutes les associations et les, voilà, tous ceux qui disent que les flux sont mixtes et comment distinguer
un migrant économique d'un demandeur
d'asile, surtout lorsqu'il a fait une traversée à partir de la Libye. Bon. Donc, tout ça est évidemment complexe, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est la mort annoncée du droit d'asile. Le droit d'asile est en train de périr aux frontières de la Grèce parce que on a suspendu la possibilité de demander l'asile et que à terme, très honnêtement, la question du droit d'asile, on le bâcle sous la pression. On va trop vite. En fait, le droit d'asile aujourd'hui est très très menacé. Et donc à GRS, nous, notre position, c'est au moins respectons le droit d'asile, parce que je crois qu'il y a une très grave menace à ne pas respecter ce droit.
Le GRS, 10 ans d'existence ?
Absolument. Nous avons fêté les 10 ans l'année dernière, en 2019, avec le démarrage de ce programme qui était le programme Welcome, qui marche encore. Mais nous...
Donc accueil de personnes, de migrants, c'est bien cela ?
Accueil de demandeurs d'asile et de réfugiés, principalement demandeurs d'asile, mais aussi de réfugiés, parce que c'est pas parce qu'on a son titre qu'on a un accès au logement, un accès à l'emploi, mais principalement des demandeurs d'asile.
Accueil à la maison, c'est ça ?
Accueil en famille, dans des communautés religieuses, voilà, accueil de toutes sortes, mais nous cherchons des familles, hein, j'en profite pour faire cet appel, nous avons besoin de familles. Et encore une fois, un accueil qui est sécurisant pour les familles. Je crois qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas régler les problèmes si nous faisons abstraction du besoin de sécurité. Et nous devons entrer en dialogue entre ce respect des droits et des principes fondamentaux et ce besoin de sécurité. Donc, tout est mis en place pour accompagner cette hospitalité dans les familles de façon à, voilà, être vigilant sur toute difficulté et à ne pas faire porter à des familles ce qu'elles ne peuvent pas porter.
On peut dire que le GRS s'inscrit totalement dans la ligne du pape François, hein, et notamment on pense bien sûr à un de ses premiers actes, hein, de son pontificat, sa visite à Lampedusa, où il a fustigé la mondialisation de la différence, hein, par rapport à cette question migratoire, d'une part, et puis vous vous situez dans une ligne de l'hospitalité biblique, en quelque sorte, hein, prônée par l'Évangile.
Oui, nous n'avons vraiment aucune petite divergence avec ce que dit le pape François et nous nous sentons profondément soutenus par sa parole courageuse, difficile pour certains chrétiens, hein, parce que je crois qu'il faut faire un constat, c'est que les chrétiens eux-mêmes sont divisés sur ces questions.
Tout à fait, et
là encore, pas de posture simpliste, c'est complexe et moi je peux comprendre que certains s'inquiètent, voilà, d'une invasion comme certains le redoutent, mais en tout cas, oui, l'hospitalité est un appel biblique. Alors on le retrouve dans l'évangile de Matthieu 25-35, on le retrouve dans l'épître aux Hébreux, ouvrez vos portes. Voilà, l'hospitalité, à mon sens, est une donnée de la Bible, mais aujourd'hui, en tout cas, JRS vraiment est sur ce lieu-là, c'est qu'on ne peut pas accueillir n'importe comment et de manière improvisée ou simpliste, parce que nous savons que l'hospitalité est aussi récupérée par des passeurs, par des personnes qui fabriquent des faux récits.
Mais
oui, il y a une
économie,
exactement. Et donc, au fond, il s'agit pour nous de déminer des lieux qui pourraient être des lieux d'abus, des lieux d'emprise, des lieux de mafia, de passeurs. Nous avons des personnes qu'il faut arracher à des réseaux, je pense à des femmes arrachées à des réseaux de prostitution. Donc au fond, ne soyons pas naïfs, il s'agit d'une hospitalité qui est la plus fraternelle, la plus chaleureuse, la plus joyeuse et d'une certaine manière inconditionnelle, parce que nous ne demandons pas aux personnes s'ils pratiquent telle ou telle religion avant de les accueillir. Mais en même temps, nous sommes très vigilants, nous avons mis en place une politique de protection des acteurs qui permet de veiller au risque de radicalisation, au risque d'agression, et toutes cette vigilance extrême et cet effort d'accompagnement au plus près, de proximité, je crois, nous permet vraiment de montrer que l'hospitalité est une joie, et plus qu'une joie, peut-être qu'elle sauve nos sociétés qui sont complètement enfermées dans des peurs et dans des égoïsmes qui, très honnêtement, ne nous donnent pas envie de vivre. Donc,
Et vous citez Aristote dans votre livre qui disait que les sociétés homogènes, c'est ça, étaient condamnées.
Mais oui.
Bon, alors cela dit, il y a quand même aussi, et là c'est un autre passage de votre livre, Véronique Albanel, La fraternité bafouée aux éditions d'Atelier, vous consacrez tout un chapitre précisément au grand remplacement, la crainte de certains du grand remplacement, donc un concept, le concept de Renaud Camus. Alors le grand remplacement, défini par certains effectivement comme une sorte de complot, mais par d'autres vécu véritablement comme une véritable inquiétude.
Oui, tout à fait. Et encore une fois, il ne faut pas balayer ou passer outre les inquiétudes. Moi, je crois qu'il faut les prendre à bras-le-corps et il faut les entendre.
Sinon, ça fait du populisme.
Absolument. Et parfois, et ce qui se passe en Grèce nous le rappelle, parfois une trop grande concentration de population, une trop grande... il y a des saturations, il y a des impossibilités d'intégrer, en fait, un accueil, une hospitalité, si elle ne va pas vers l'intégration dans une société qui a ses propres réflexes culturels. Sa propre culture, ses propres codes, ses propres modes de vie qu'il faut saluer et défendre, eh bien, je pense qu'on va dans le mur. Et c'est toute la question, c'est en fait le respect aussi d'une exaspération légitime de certains quartiers, de certains qu'on appelle ghettos, de certains lieux où effectivement, il semble le métissage gagne tellement qu'on a l'impression qu'il y a,
qu'il n'y a plus de métissage.
Qu'il n'y a plus de métissage. Oui. Tout à fait. Donc personnellement, je pense que la théorie du grand remplacement, ça ne se veut ni un concept scientifique, ni quelque chose de prouvé. C'est purement épidermique. Hein. Et avec cette théorie complotiste derrière. C'est-à-dire qu'on accuse l'ONU, on accuse l'Europe d'orchestrer tout cela. Et tout cela, très honnêtement, si on s'y penche, ne tient pas la route. Mais sans recourir à des démographes, parce que là encore, c'est des querelles de chiffres et que ça ne convainc personne. La question, à mon sens, c'est toujours la question de l'amalgame et de ce qu'il y a derrière. Quelle société voulons-nous ? Est-ce que nous voulons une société tellement homogène qui nous ressemble ? Mais est-ce qu'elle est si belle et si sûre ? Et au fond, est-ce qu'en plus, ce n'est pas se leurrer ? Parce qu'est-ce que vraiment nous sommes si homogène que cela dès le départ ? Enfin, il faudrait revenir à l'histoire de France, mais peu importe. Moi, je crois, la question, c'est qu'est-ce que nous faisons à nos portes ? Qu'est-ce que nous faisons même dans nos familles, et qu'est-ce que nous proposons ? Et moi, je n'ai pas de recette miracle, je vous l'avoue, mais ce que je sais, c'est que j'ai cette force, à la fois cette force et cette humilité, nous défendons cette force et cette humilité, d'essayer d'œuvrer, et c'est vraiment ce que nous faisons à GRS, pour ouvrir nos portes, mais aussi nos cœurs, parce que l'un ne va pas sans l'autre, et de faire en sorte que l'accueil débouche sur quelque chose de digne et d'intégration. Et je crois que le fantasme qui est derrière le grand remplacement, c'est la prétention à l'amalgame. Il n'y a pas d'unité derrière ces menaces. Il n'y a pas, derrière une prétendue invasion subsaharienne et musulmane, quelque chose d'uniforme. Vous voyez, et ça, quand on est au contact du réel, et quand on voit les personnes qu'on accueille, mais c'est absurde d'imaginer cela. Il n'y a pas de réalité homogène d'une menace qui viendrait attaquer une prétendue homogénéité chez nous.
Alors, dans cette peur du grand remplacement, l'islam, vous insistez sur cette question de l'islam, l'islam qui fait peur.
Oui, et l'islam qui fait peur, et encore une fois, une peur qu'il faut prendre au sérieux, parce que je crois que à chaque fois qu'il y a une peur, la réciprocité suppose que chacun œuvre pour démonter la peur. Alors, nous qui accueillons, nous avons aussi à repérer qu'il y a un amalgame dangereux derrière les musulmans. Il y a une diversité
immense,
de pratiques, de rapports à la religion, Donc, et il y a surtout, moi, je tiens à le saluer parce que j'accueille chez moi et j'en ai été témoin personnellement. Il y a des musulmans admirables qui ont conservé la foi à travers des parcours inhumains, barbares, et qui nous rappellent qu'un rapport à Dieu peut être beau et sain, et peut-être qu'il réveille notre propre foi. Donc encore une fois, ne taxons pas l'islam de quelque chose d'uniforme et de purement dangereux. L'islam est aussi, je pense, quelque chose de beau et une ressource. Maintenant, je crois qu'il y a un vrai travail critique à faire sur le rapport notamment au Coran, c'est-à-dire que le fait, pour moi, philosophe en tout cas, que un texte puisse être considéré comme incréé, c'est-à-dire tombé du ciel, dicté par l'ange Gabriel, et en arabe exclusivement, et qui me pose question. Et je pense que quand même, il y a un rapport critique au texte, la question de l'interprétation, d'une pluralité d'interprétation, d'un débat ouvert. Toutes ces questions se posent à l'islam et je crois qu'il faut les prendre à bras. Mais ils sont déjà prises à bras-le-corps.
Tout à fait, comme la question de la liberté de conscience, du choix de la religion, d'en avoir une, pas une.
La possibilité d'apostasier sa religion, la possibilité des conversions.
Oui.
Ça, je crois quand même que c'est une vraie question qui est posée à l'islam.
Quelques mots sur votre expression « l'insécurité culturelle », Véronique Albanel. Justement, par rapport d'ailleurs à cette question, liée à cette question aussi de l'islam.
Oui, je crois que c'est une réalité. Nous sommes généralement en insécurité. Je crois que l'insécurité,
c'est le propre de l'homme.
C'est le propre de l'homme. Nous sommes en insécurité sanitaire aujourd'hui. Ce n'était pas le cas en 2018.
Ça n'était pas le cas il y a encore 2 mois.
Et c'était pas le cas il y a encore 2 mois. Mais généralement, je crois que nos sociétés occidentales, particulièrement l'Europe, est en crise d'identité. Mais même, elle ne parvient pas à se convaincre de son modèle. C'est quelque chose. Je pense que les familles elles-mêmes sont déstabilisées. Enfin, tout. Nos modèles sont en crise. Donc, comment s'appuyer ou se rassurer sur quelque chose qui pourrait durer? Nous sentons qu'une menace est là, que nous n'avons plus vocation à donner en modèle nos démocraties occidentales, que nous n'avons plus vocation à donner le christianisme comme moteur aussi d'une vie bonne.
Mais 2% de pratiquants aujourd'hui.
Mais oui, mais oui. Et bien sûr, après, on va accuser le baptême, mais commençons par balayer devant nos portes et voyons ce que nous avons fait aussi de ce christianisme, et est-ce qu'un christianisme purement replié, identitaire, qui passe son temps à accuser le monde, la culture de mort et tout ça. Bien sûr, oui, qu'on peut dénoncer, mais si on nous crée des ponts, et si on, comme le dit si bien le pape François, tout est lié, notre monde peut être sauvé si nous savons convertir nos peurs en quelque chose de l'ordre d'une relation à l'autre. Oui, je serais tentée de reprendre la chronique, je crois, du jour de la croix. L'amour en peur, l'amour peut se substituer à la peur, et l'amour est aussi contagieux que la peur. Oui, je crois, l'amour, la paix peut se battre avec de belles armes, à condition d'y aller prudemment et doucement.
Là, on va parler de contagion positive.
Voilà.
Véronique Albanel, je vous remercie d'avoir été notre invitée. Donc, je rappelle, La Fraternité Bafouée, sortir de la peur du grand remplacement. Et c'est aux éditions de l'Atelier. Je vous remercie.
Merci à vous.
Et c'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.